et que à l'avenir vous ayez à prendre le train, c'est possible que vous puissiez vous inquiéter. Vous comprenez que on n'est pas habitué à entendre des accidents de train, et puis là il y en a eu 3 en 3 jours, donc ça pose des questions. Il y a notamment eu un accident en Suisse, c'était lundi dernier, un train qui arrivait de Lausanne et qui allait dans cette direction-là et entrait en collision avec un train qui arrivait de Payerne dans ce secteur ici. Et c'est assez dramatique puisque le chauffeur du train qui arrivait de Lausanne est mort sur le coup et il y a eu des blessés dans le train, etc. C'est une vraie catastrophe. Les CFF, qui sont l'équivalent de la SNCF en Suisse, les CFF depuis une semaine ne pensent qu'à une chose, c'est comment faire pour que cela ne se reproduise pas. C'est pas possible que des trains entrent en collision. En plus là, certes c'était une voie unique, mais il y avait des systèmes de signalisation pour éviter que les trains entrent en collision. Bien, ce passage de Philippiens 2, c'est un peu le même état d'esprit dans lequel il est écrit. Paul a entendu qu'il y a des soucis chez les Philippiens, qu'il y a notamment des risques de division. Il sait aussi que dans le contexte de Philippe, qui est au nord de la Grèce, en Macédoine, dans le contexte de cette ville, il y a les citoyens sont très attachés à Rome et au culte d'empereur. Par conséquent, se professer chrétien, annoncer que l'on est chrétien, va immanquablement conduire les chrétiens de Philippe à subir de l'opposition. Si jamais ces chrétiens sont divisés, ils ne vont pas pouvoir résister. Paul est en train d'expliquer aux Philippiens, attention, vous êtes sur de bons rails, mais attention, si vous ne prenez pas garde, vous risquez d'entrer en collision avec le train qui va arriver en face et qui va vous anéantir. La solution que Paul propose, c'est de rester unis. Et je vous propose de voir ensemble qu'est-ce que Paul entend par l'unité dans ce passage, à travers 3 aspects. Premièrement, Christ, motif de l'unité. Ensuite, Christ, source de l'unité. Et enfin, Christ, énergie de l'unité. Et je vous propose de relire ensemble les 5 premiers versets qui nous parlent de Christ, motif de l'unité. Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Paul insiste ici clairement au verset 5 sur le fait que vivre dans l'unité n'est pas une option, mais une obligation. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Verset 2, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et quelque part, c'est logique. Toute association humaine, pour fonctionner correctement, nécessite une unité, une cohérence. Sinon, ça ne s'appelle plus une association, ça s'appelle autrement. Pour qu'une assemblée, pour qu'une église puisse fonctionner, il est nécessaire qu'il y ait de l'unité. Or, Paul explique aux Philippiens qu'il y a de nombreux ennemis à l'unité. Et quels sont ces ennemis? Verset 3, c'est l'esprit de rivalité. C'est le désir de se mettre en avant. Autrement dit, l'ennemi de l'unité se trouve au milieu même de ceux qui sont unis. C'est pas quelque chose qui provient de l'extérieur, c'est pas quelque chose qui... Non, c'est dans notre cœur, dans le cœur de ceux qui veulent fonctionner ensemble. Qu'est-ce que c'est que la rivalité? Qu'est-ce que c'est que le désir de se mettre en avant? C'est tout simplement ce que l'on appelle l'orgueil. Et l'orgueil est présent dans chaque être humain, quel qu'il soit, chrétien ou non chrétien. l'unité a des ennemis, mais la division a aussi des ennemis. Au verset 3 et verset 4, Paul dit « Par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres désirs, non ses propres qualités, mais celles des autres. » Quels sont les ennemis de la division? Eh bien, tout d'abord, c'est l'humilité, et ensuite, c'est s'intéresser aux autres. Tout d'abord, l'humilité. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Bien, à travers l'humilité, ici, on pourrait dire beaucoup de choses, mais il insiste sur cet aspect, considérer les autres comme plus importants que soi-même. Considérer les points forts de l'autre. Considérer les dons de l'autre. C'est hyper facile de voir tout ce qui est énervant chez l'autre, mais c'est plus difficile de se dire, allez, je vais dire à cette personne quelque chose qui est bien chez elle et que j'apprécie chez elle. Deuxièmement, penser et parler des intérêts des autres. Autrement dit, savoir décentrer le regard. Savoir se dire, ok, j'ai plein de soucis, j'ai des difficultés, mais je veux aussi m'intéresser aux autres. Alors, c'est très théorique, je vous donne des exemples. Juste avant, Paul, au verset 3 du chapitre 1, dit ceci. C'est une prière. « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. » C'était un petit moment que j'étais pas ici à Sonra, parmi vous, et plusieurs fois, cette pensée-là m'a frappé. Être reconnaissant pour mes frères et sœurs dans l'assemblée à laquelle j'appartiens. Et remercier le Seigneur pour vous, pour ce que vous êtes. Mercredi, j'étais à côté de Lausanne pour l'enterrement de mon grand-oncle. Il est décédé vendredi dernier, à 85 ans. Et c'était une personne que j'appréciais beaucoup, que j'admirais beaucoup. Et quand, pendant la cérémonie d'enterrement, il y a un discours qui a un petit peu retracé sa vie et son caractère. Et tout d'un coup, ça m'a fait tilt, je me suis dit, mais finalement, ce grand-oncle, il ressemblait beaucoup à mon grand-père, qui est toujours en vie. Et je me suis dit, mais il faut absolument que j'aille voir mon grand-père et que je lui dise à quel point je l'apprécie et ce que j'apprécie chez lui. Parce qu'une fois que la personne est partie, on peut faire de beaux discours, mais la personne n'entend plus et n'est plus concernée par cela. Est-ce qu'il y a des personnes à qui tu te dis, t'aimerais dire des choses positives, dire à quel point tu l'apprécies, mais peut-être que tu ne pourras pas toujours le faire et que c'est l'occasion pour toi de saisir l'opportunité d'aller dire des choses à cette personne. J'aime bien aussi l'exemple de Gabrielle Jeffé, dont j'ai parlé juste avant. Elle est en Israël. Elle a à cœur de manifester de l'amour envers des Palestiniens qui pour beaucoup sont musulmans. Et en plus, elle se tourne vers des enfants handicapés et des familles dans la difficulté. C'est aussi une manière de s'intéresser aux autres qui nous montre à quel point le Seigneur nous donne toute une panoplie et toute une diversité de manières de s'intéresser aux autres. Et je pense que derrière cet exemple, il y a une application très concrète pour nous en tant qu'Église et pour nous en tant qu'individus. Si nous avons à cœur que d'autres personnes puissent rencontrer le Seigneur et connaître l'Évangile, nous pouvons distribuer la Bible, les Écritures, nous pouvons proposer des lectures, etc. Mais ça ne remplacera jamais, et surtout dans nos sociétés françaises, ça ne remplacera jamais les relations que nous nouons avec les personnes qui nous entourent, avec nos voisins, avec nos collègues. Nouer des relations est l'assurance de poser une base de respect mutuel qui nous permettra ensuite d'annoncer l'Évangile de telle sorte que les personnes soient ouvertes et comprennent qu'on les aime pour ce qu'elles sont et que l'objectif n'est pas juste de les gagner à une cause particulière. Paul explique donc aux Philippiens que l'ennemi numéro un de l'unité, c'est l'orgueil. Il propose donc un mode de pensée préventif et alternatif, à savoir l'humilité, à savoir s'intéresser aux autres, c'est-à-dire l'altruisme. Mais là, vous me direz, et je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de gens autour de nous qui ne sont pas chrétiens et qui sont humbles et qui sont altruistes, qui sont capables de s'intéresser aux autres et de prendre soin des autres. Quelle différence Paul propose-t-il donc aux Philippiens ? Ben, je crois que Paul va un peu plus loin que simplement de donner le remède ou ce qu'il faut faire pour lutter contre la division. Paul donne aussi la source de l'unité. Et cette source, ce n'est pas une morale, ce n'est pas une philosophie ou un code de conduite. Cette source est une personne. Cette source, c'est Christ, source de l'unité. Et c'est ce qu'on voit dans les versets suivants, 5 à 8. Verset 5, « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. » Quand on est uni à Jésus-Christ, ce n'est pas « vivez ainsi pour être uni à Jésus-Christ », c'est « puisque vous êtes uni à Jésus-Christ, tendez à vivre ainsi ». Être uni à Christ est la source de l'unité entre nous. C'est exactement comme cette image dont j'ai parlé plus tôt. Que fait le palmier ? Il plonge ses racines très profondément dans le sous-sol et il y puise les nutriments qui sont nécessaires à sa survie. Situé uni à Christ, eh bien, tu puises ton énergie et tu puises toute la nourriture qui va transformer ta manière de penser et ta manière d'agir. Autrement dit, que signifie être uni à Christ ? Eh bien, ça signifie être bien sûr en paix avec lui, mais ça signifie chercher à le connaître, chercher à savoir comment il fonctionnait, comment il agissait, comment il pensait. Et là, je pense que c'est quelque chose qui s'adresse à toi, que tu sois chrétien ou pas. Chercher à connaître Christ, chercher à connaître comment il agissait, comment il pensait, peut avoir des conséquences sur ta manière de vivre et ta manière de fonctionner. Alors, ces versets 6 à 8, ensuite, nous apprennent trois choses sur Christ. Premièrement, Christ est parfaitement Dieu. Deuxièmement, Christ est parfaitement homme. Dans son apparence, mais troisièmement, il est aussi parfaitement homme dans son caractère. Christ, tout d'abord, est parfaitement Dieu dans son essence. Verset 6, « Lui qui, dès l'origine, était de condition divine. » ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Christ est donc égal avec Dieu. Et quand il est venu sur terre, il a conservé sa condition divine. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est dit, lui qui, dès l'origine, était de condition divine. Autrement dit, et ça c'est quelque chose qui est fondamental, Christ n'est pas devenu fils de Dieu, mais il était fils de Dieu depuis toujours, dès l'origine. Autrement dit, Christ n'est pas devenu fils de Dieu après sa mort, lorsque Dieu l'a ressuscité. Christ était fils de Dieu dès l'origine. Et pourquoi est-ce que Dieu a ressuscité Christ ? C'était pas pour en faire un être supérieur. Dieu a ressuscité Christ parce que il était son fils dès l'origine. Ce que je dis là peut paraître très simple et du bon sens, mais c'est essentiel parce que si Jésus était Christ dès l'origine, ça veut dire que ce n'est pas un homme qui s'est avéré être un super prophète qui a été transformé en Dieu. C'est bien Dieu qui s'est fait homme et qui a manifesté l'amour de Dieu. Christ est parfaitement Dieu, mais en même temps, il s'est fait parfaitement homme. Et là encore, c'est assez extraordinaire. Tout d'abord, il s'est fait parfaitement homme dans son apparence. Verset 7, « Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. » Lorsque Jésus se promenait en Palestine, les disciples, ils l'ont pas vu en disant « Waouh, le rayonnement, waouh, il brille, waouh, c'est le Fils de Dieu ». Il a fallu qu'il le côtoie jour après jour pour être convaincu par son caractère et son attitude. Jésus-Christ était 100% humain et son humanité était 100% visible. Non seulement son apparence, mais aussi son caractère faisait de lui un parfait homme. Et alors il y a un trésor dans ces versets que j'aimerais vous partager. J'ai découvert en préparant ça et que j'aimerais vous partager. Le trésor, c'est le suivant. Alors, on lit au verset 6. Lui qui était de condition divine. Verset 7, il a pris la condition du serviteur. Le terme grec qui est derrière ce mot français de condition, c'est un mot qui signifie la forme. C'est le mot grec morpho. Sauf qu'en grec, il y a deux mots pour parler de la forme. Il y a le mot morpho et le mot schéma. Le mot schéma, c'est plutôt l'apparence extérieure. Le mot morpho, c'est plutôt l'apparence intérieure. Autrement dit, Jésus-Christ non seulement avait l'apparence extérieure d'un être humain, il était 100% homme, mais il avait aussi le caractère et l'état intérieur d'un être humain. Et même plus que ça, puisque il est dit ici qu'il a pris la condition du serviteur. Ça veut dire que son être intérieur était celui à 100% d'un serviteur. Et c'est là où on comprend mieux à quel point cette phrase « il s'est dépouillé lui-même » est importante. Christ, qui était l'égal de Dieu, Christ, qui était dès l'origine le Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité, Christ a accepté de se faire homme extérieurement et intérieurement, de devenir un serviteur. Et pas un serviteur qui simulait, pas une fausse humilité, mais il avait un cœur profond de serviteur. Et j'insiste sur cette idée que Christ a convaincu ses contemporains, non pas par des actions extraordinaires, mais il les a convaincus par la qualité de sa vie intérieure, par la qualité de sa vie quotidienne. Et ça nous parle aussi, je crois, que comment est-ce que nous pouvons aussi être des chrétiens convaincus que ce que nous croyons que est vrai. Nous pouvons être des chrétiens convaincus, je peux être un chrétien convaincu, tu peux être un chrétien convaincu, si la qualité de ta vie avec Dieu te transforme. Si tu ne vois aucun changement, c'est qu'il y a un problème et il faut que tu trouves quel est ce problème. De la même manière, la qualité de notre vie personnelle et la qualité de notre vie d'église doit être telle que nous soyons des témoignages par notre vie quotidienne auprès des personnes que nous côtoyons. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé je m'excuse, j'ai pas pu me retenir, mais la nuit du 4 août 1789. La nuit du 4 août 1789, on est en pleine Révolution française. Oui, pour ceux qui ne savent pas, je suis prof d'histoire. La nuit du 4 août 1789, on est en pleine Révolution française. L'Assemblée constituante a un gros problème, c'est que dans toutes les campagnes françaises, des paysans se révoltent pour attaquer les châteaux de leurs seigneurs. Pour une raison très simple, les seigneurs avaient tout et les paysans n'avaient rien. Autrement dit, à Paris, les députés doivent absolument trouver une solution pour apaiser la France. Et qu'est-ce qu'ils font dans la nuit du 4 août 1789 ? Ils décident, de manière collective, d'abolir les privilèges. Certains de ces députés étaient des nobles, certains étaient membres du clergé, et ils avaient un privilège énorme, c'est qu'ils ne payaient pas d'impôts. Et dans la nuit du 4 août, ils ont dit « Ok, on veut payer des impôts, on est content maintenant de payer des impôts ». Et cette décision a provoqué le retour au calme et la situation est devenue plus paisible dans le reste de la France. Ces nobles, ces évêques ont dû se dépouiller pour pouvoir acheter la paix de la France. Et c'est ce que Christ a fait. Christ est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès de Dieu pour venir comme un vrai homme pour acheter la paix dont nous avions besoin pour pouvoir être unis avec lui et unis avec Dieu. Et on ne peut pas terminer sans insister sur ce mystère, c'est que Christ est venu sur terre étant 100% homme, mais en même temps, il est resté 100% Dieu. Christ ne s'est pas vidé de sa divinité. Simplement, il n'a pas fait usage de sa divinité telle qu'il aurait pu le faire s'il l'avait voulu. Il a accepté de vivre une vraie humanité, authentique, sans triche, même dans l'ignorance du jour de son retour, mais sans pour autant perdre sa divinité. Alors vous allez me dire, très bien, Christ est parfaitement Dieu, Christ est parfaitement homme, qu'est-ce que ça change pour moi ? Une citation. Le mot religion recouvre des notions bien différentes selon les individus. Tout dépend de la nature du Dieu que l'on vénère. Je répète ça. Le mot religion recouvre des notions bien différentes selon les individus. Tout dépend de la nature du Dieu que l'on vénère. Tu peux dire que tu crois en Jésus-Christ, et pourtant, c'est possible que tu sois sur ces rails, sur cette voie unique, et qu'il y a un train qui arrive en face et que tu exploses en route. Tu dois être sûr que le Jésus dans lequel tu crois est ce Jésus parfaitement homme et parfaitement Dieu. Qu'est-ce que ça change pour toi ? Prenons les choses à l'envers. Supposons que Jésus n'était pas Dieu, mais un simple homme, qui ensuite est devenu le Fils de Dieu. Eh bien, cela signifierait que Dieu ne serait pas impliqué dès l'origine lui-même pour ton salut, mais qu'en réalité, il aurait confié cette tâche à un être humain. Et cet être humain ayant réussi ses épreuves héroïques, serait devenu la créature à l'origine du salut de l'humanité. Autrement dit, Dieu ne nous aurait pas donné le plus grand amour possible en envoyant son Fils, mais Dieu nous aurait simplement montré son amour à travers un être exceptionnel qu'il aurait élu pour nous sauver. Or, qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a montré pour nous le plus grand amour. Il a donné son Fils, et on sait qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et qu'est-ce que cela suscite en nous ? On a envie de sauter, on a envie de danser, puis on ne le fait pas parce qu'on sait que la chape elle est fragile et que Christian ne serait pas content. Mais on a envie de chanter, et franchement, on pourrait chanter ce fameux chant « Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel, tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir le corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. » Le fait de réaliser à quel point Christ a accepté de quitter sa gloire pour venir sur la terre et donner sa vie pour nous, pour aller jusqu'à la mort de la croix, ça nous émerveille. Oui, il est le roi serviteur. Et ce qui est extraordinaire, c'est la dernière strophe de ce chant. Dernière strophe qui dit « Maintenant, apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. » Et j'aimerais terminer par là. Christ n'est pas seulement le motif de l'unité, Christ n'est pas seulement la source de l'unité, mais comme le dit cette dernière strophe, Christ est aussi l'énergie de l'unité. Ce passage de Philippiens termine par « C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre, jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Tout genou, chacun fléchira un jour les genoux devant Christ. même ceux qui ne l'ont pas fait de leur vivant. Ce passage ne dit pas que tout le monde sera sauvé, mais qu'un jour tout le monde, toutes, même les créatures dans les cieux que nous ne connaissons pas, fléchiront les genoux devant Christ. Et j'aimerais vous donner une illustration pour insister là-dessus. Deux dirigeants qui sont tristement célèbres, Kim Il-sung et Kim Jong-il. Kim Il-sung, c'est celui de gauche, là, qui est décédé en 1994. Kim Jong-il, il est décédé en 2012. Ce sont les deux dirigeants de la Corée du Nord communiste. Leur particularité, c'est que ce sont des dictateurs et qui se sont érigés en véritable dieu pour leur peuple. Et juste une anecdote, cette statue-là a été créée peu de temps après le décès de Kim Jong-il, en 2012. Et il porte en fait une veste qui ressemble à celle de son père ici. Et puis, il se trouve qu'à la fin de sa vie, en fait, il ne portait pas du tout une veste comme ça. Et du coup, les dirigeants ont décidé de changer la statue pour lui donner une veste beaucoup plus récente, un anorak en fait. Mais évidemment, il a fallu, enfin, ça a coûté extrêmement cher, et quand on sait la famine dans laquelle le peuple est maintenu, ça laisse rêveur. Moi, j'aimerais juste vous citer une anecdote d'une personne qui a voyagé là-bas, et qui a dit ceci. Oui. Ce personnage-là est toujours visible dans la capitale Pyongyang. En fait, il a été momifié, comme Lénine, comme Ramsès II. Et on peut aller le voir. Et il se trouve qu'à la fin de la visite, il y a une sorte de livre d'or, un registre dans lequel on peut noter ses impressions et on peut laisser un hommage à ce dirigeant. Et la personne qui a visité ce mausolée a écrit ceci dans le livre d'or. Il a mis « Hommage d'un visiteur de passage au président de la Corée du Nord ». Hommage d'un visiteur de passage au président de la Corée du Nord. Il était tellement outré par l'adulation, l'adoration envers ce dirigeant, qu'il a essayé de faire quelque chose de très plat. Et le guide qui l'accompagnait et qui le suivait jour et nuit pendant son voyage a lu ça et a dit « Non, non, ça va pas, il manque un adjectif. Il faut rajouter un adjectif. On ne peut pas écrire « président de la Corée du Nord », il faut un adjectif. » Donc il a repris le stylo et il a ajouté au-dessus de ce qu'il avait écrit, « Hommage d'un visiteur de passage au président éternel de la Corée du Nord. » Pour les Coréens, ces deux personnages-là sont des présidents éternels. Et il y a une cérémonie, quand on arrive en Corée du Nord, il faut aller devant ces statues, dont vous voyez la taille, et il faut incliner la tête en signe d'adoration et de respect. Mais on sait bien que avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire, comme il est dit dans Proverbe. Christ est vainqueur, et un jour, même ces deux personnages-là devront fléchir les genoux devant Christ. Christ est aussi Seigneur, et c'est ce qui nous est dit ici. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, ça peut avoir un sens faible, dans le sens du maître, d'un esclave, par exemple. Mais ça peut aussi avoir un sens très fort. Le mot grec qui est utilisé ici pour Seigneur, c'est le mot « kurios ». C'est en fait la traduction du mot hébreu « Adonai ». Et les Juifs, dans les Écritures, utilisaient le mot « Adonai » pour ne pas dire le tétragramme sacré « Yahvé », qui était le nom de Dieu imprononçable par respect pour Dieu. Jésus-Christ ici est appelé Seigneur, Kurios, au même titre que Dieu est appelé Yahvé, Adonai, dans l'Ancien Testament. Quand Paul dit ici que Jésus est Seigneur, c'est donc très fort. Mais c'était aussi source de conflit. Qui c'est qui s'appelait aussi Kurios à l'époque? Qui c'est qui s'appelait Seigneur à l'époque? Ben, c'était César. Hein, César, Kurios. Donc dire Jésus-Christ est Seigneur à Philippe, dans une ville qui respectait l'empereur romain, c'était dangereux. Mais Paul l'affirme avec force. Qui est le Seigneur de ta vie? Est-ce que tu as simplement déjà dit une fois dans ta vie à Christ que tu voulais qu'il soit ton Seigneur, ton Maître? Et surtout, si Christ est ton Seigneur, est-ce que tu vois des changements dans ta vie quotidienne? Christ est Seigneur et Christ a donc été glorifié. Lorsque Dieu a ramené Christ de la mort à la vie, après sa crucifixion, il l'a aussi ramené auprès de lui et il l'a glorifié. Christ est aujourd'hui assis à la droite du Père et il est celui qui mérite toute la gloire. Et finalement, Christ est revenu à la situation de départ. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Christ n'est pas resté simplement dans la gloire auprès du Père? Pourquoi est-ce qu'il est venu s'humilier sur la terre, se faire roi serviteur, mourir sur la croix, pour finalement revenir à la situation de départ? Eh bien, en passant, il a fait deux choses. Premièrement, il nous a montré à quel point Dieu nous aime en partageant notre humanité. Et deuxièmement, il a glorifié son Père. Et c'est ainsi que ce passage se termine. Ce texte s'adresse aux Philippiens. Paul est inquiet concernant leur unité. Paul est inquiet concernant leur capacité à résister aux épreuves à venir. Et Paul explique quoi aux Philippiens? Qu'il existe des ennemis de l'unité, mais qu'il existe aussi des ennemis de la division. Et Paul explique clairement aux Philippiens que Christ est le motif de l'unité, que Christ est la source de l'unité, mais que Christ est aussi l'énergie de l'unité. Si tu crois que Christ est ton Seigneur, c'est bien, mais Jésus a dit, ok, il y a beaucoup de gens qui disent « Jésus est Seigneur », et puis pour autant, ils ne seront pas forcément avec lui dans le ciel. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus-Christ désire non seulement être notre Seigneur, mais désire qu'on mette en pratique ce qu'il nous propose de vivre. Et à travers ce que nous vivons en tant qu'association, en tant qu'assemblée, à travers ce que nous vivons aussi dans notre vie quotidienne, dans nos relations les uns avec les autres, Dieu nous donne des tests pour savoir si vraiment Jésus est notre Seigneur. Je propose une minute de silence pour réfléchir à ce qu'on a dit, et puis ensuite j'aimerais prier, et puis terminer par un chant. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce passage de ta parole. Qui nous montre à quel point Christ a accepté de quitter la gloire pour finir à la croix. Et merci parce que cet amour que tu nous as montré par le sacrifice de ton Fils appelle à une transformation de ma vie, de mon comportement, de mon attitude. J'aimerais te prier, Seigneur, que je puisse te laisser la place pour être transformé, pour apprendre à vivre avec l'humilité qui vient de toi, en m'intéressant aux autres, et en étant capable aussi de dire à ceux que j'aime, ce que j'apprécie chez eux. Merci pour ta parole profonde et tellement riche. Amen.